Vous écoutez
RMC.
Jeudi 11 juin,
l'info sur RMC. Il est 5h59, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Faut-il accélérer le déconfinement? Nouvelle phase prévue le 22 juin. Il ne faut pas attendre, dit par exemple le ministre de l'Éducation. Attention, le virus n'a pas disparu, mais il circule de moins en moins. Un choc considérable, 800 000 emplois devraient être supprimés en France d'ici la fin de l'année, dixit Bruno Le Maire. Vous devrez bientôt prouver votre âge pour accéder à un site porno. Graphique, mesure pour protéger les mineurs. Le Sénat a voté un amendement en ce sens. Il est 6h, bienvenue à tous sur RMC. C'est une petite musique qui résonne depuis quelques jours. Faut-il déconfiner plus vite que prévu? Emmanuel Macron prendra la parole dimanche soir. Le MEDEF a demandé au gouvernement de réviser les protocoles sanitaires appliqués en entreprise. Jean-Michel Blanquer est sur la même ligne en ce qui concerne les écoles. Décision demain au Conseil de défense, d'autant que la Direction générale de la Santé est rassurante. Aucun signe de reprise épidémique, mais le virus circule toujours. Les soignants le constatent tous les jours. Caroline Philippe.
500 nouveaux cas sont détectés en moyenne par jour en France. Le virus n'a pas disparu, mais il circule très peu, comme le note le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Nous constatons encore un certain nombre de patients qui consultent aux urgences de notre hôpital, environ un tous les 2 à 3 jours. À l'inverse, les cas actuels sont essentiellement des cas avec des symptômes mineurs. Et en réanimation, voici 2 mois que nous n'avons reçu aucun patient présentant une forme avec pneumonie grave.
Preuve que le confinement a cassé l'épidémie et affaibli le virus, la France retrouve aujourd'hui une situation équivalente à celle de février dernier, selon Jacques Battistoni, médecin généraliste et président du syndicat MG France.
Qu'est-ce qui fait qu'on ne repasse pas en phase épidémique? Probablement le fait qu'aujourd'hui, contrairement à février, les gens respectent les mesures barrières et donc chaque personne que nous testons positif, on se rend compte qu'elle n'a que 2 ou 3 personnes au maximum, souvent qu'elle a pu contaminer.
Cette distanciation sociale et le dépistage des cas contacts ont permis de contenir les 200 foyers de contamination recensés depuis le 9 mai dernier.
23 personnes supplémentaires sont décédées ces dernières 24 heures en France. On a aussi appris que 2 nouveaux cas de Covid avaient été détectés parmi des marins du porte-avions français Charles de Gaulle. Il y a 2 mois, plus 1 000 avaient été testés positifs. Demain, nous saurons si le protocole sanitaire dans les écoles est allégé. Un protocole très strict qui empêche le retour en même temps de l'ensemble des élèves. C'est pour cette raison que nos enfants n'ont cours qu'un jour ou 2 par semaine. Hier soir, le ministre de l'Éducation, je l'ai dit, a dit espérer un changement au plus vite, ce qui permettrait d'accueillir jusqu'à 20 élèves en classe de primaire au lieu de 15 aujourd'hui. Du côté des établissements, certains sont fébriles, comme a pu le constater Margot Bédé pour RMC.
Depuis le 11 mai, Olivier Flipeau, directeur et membre du syndicat SE-UNSA, a déjà dû réaménager 2 fois son école à Cergy. S'il aimerait accueillir tous les enfants, 5 élèves de plus par classe compliquerait le fonctionnement de son établissement.
Nous avons calibré complètement l'école avec un axe de sortie, un axe de rentrée, des lignes avec des placements tous les mètres. Je ne suis pas sûr qu'on puisse respecter ça parce que il va nous manquer de place. Un élève tous les mètres, ça fait des longues files. Et à chaque fois, c'est beaucoup de travail. On en a un petit peu marre.
Des difficultés d'organisation qui ne doivent pas pénaliser nos enfants, d'après Luc Carvounas. Avec 16 autres élus franciliens, le maire d'Alfortville a écrit au Premier ministre hier pour réclamer un retour à l'école le plus rapidement possible.
Je suis persuadé que aucun enseignant dans ce pays n'a envie de voir une génération d'illettrés Covid-19. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que les enfants retournent tous à l'école.
De son côté, l'entourage du ministre de l'Éducation nationale assure que familles et professeurs se tiennent prêts à reprendre si le protocole sanitaire est assoupli.
Les ravages de la crise sur l'emploi s'annoncent considérables. 800 000 emplois vont être supprimés d'ici la fin de l'année, annonce hier de Bruno Le Maire, qui a appelé à des politiques publiques massives pour accompagner tous ceux qui sont touchés.
Notre évaluation est que nous aurons d'ici les mois prochains la suppression de 800 000 emplois, c'est-à-dire 2,8% de l'emploi total. C'est considérable, mais ça n'est pas comparable avec la baisse de l'activité, qui est de moins 11%. Ce qui veut dire que ce choc est considérable sur l'emploi. Il doit appeler des politiques publiques massives pour soutenir, accompagner tous ceux qui sont touchés. Mais nous allons amortir ce choc.
RMC 6h03, l'IGPN, la police des polices, va être saisie après l'arrestation fin mai dans le Val-de-Marne de 4 adolescents. Leurs familles ont porté plainte. Détention arbitraire, injures racistes et homophobes. Ils n'auraient été prévenus que le lendemain de l'arrestation de leurs enfants. La police affirme le contraire. Cette affaire ressurgit en plein débat sur les violences policières. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reçoit d'ailleurs aujourd'hui et demain les syndicats de police. Les manifestations contre le racisme se poursuivent aussi dans notre pays. Nouveau rassemblement prévu ce week-end. Et c'est dans ce contexte que Marion Maréchal a pris la parole sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française pour la mort d'un afro-américain et d'Adama Traoré, a affirmé l'ex-députée d'extrême droite. On les a applaudis, remerciés au plus fort de la crise, les soignants bien sûr, mais les autres salariés aussi, ceux qui nous ont permis de faire nos courses, ceux qui ont ramassé nos déchets. Vendredi, un salarié d'une entreprise de collecte de déchets de Fresne-Camilly près de Caen s'est suicidé quelques heures après avoir reçu sa lettre de licenciement. Il avait consommé deux bières pendant son temps de travail, des bières offertes par un riverain qui souhaitait lui dire merci. Maxime Brandstatter.
Il a été retrouvé chez lui en tenue de travail, sa lettre de licenciement à ses pieds. L'homme de 46 ans n'a pas supporté d'être licencié après 26 ans dans son entreprise. Motif du licenciement, un taux d'alcoolémie de 0,19 g par litre de sang d'après France Bleu Normandie. Les boueurs auraient accepté deux bières offertes par un riverain pour le remercier de son travail pendant le confinement. Le maire du Fresne-Camilly, Jacques Landemaine, ne comprend pas qu'un éboueur de sa ville en première ligne pendant la crise du Covid-19 soit traité ainsi.
Tout le monde a été content de les trouver, tout le monde les a applaudis ou pratiquement les applaudit en disant c'est des gens extraordinaires qui pendant le confinement se sont dévoués pour ramasser les ordures et puis tout d'un coup le patron leur dit ben voilà vous avez bu deux bières et on vous vire quoi. Ça dénote certainement un malaise dans sa société quoi.
La société qui l'employait n'a pour l'instant pas voulu répondre. La famille, elle, souhaite porter plainte.
Comment restreindre de la meilleure des manières l'accès des mineurs au porno? Un amendement pour imposer un contrôle d'âge aux éditeurs de sites a été adopté. Le texte propose que le visiteur du site prouve qu'il est majeur. Juliette Pietraszewski, Nicolas Trénaud.
Pour visiter une plateforme pour adultes, il faudrait scanner sa carte bancaire ou s'identifier comme sur le site des impôts ou de l'assurance maladie. Plus fiable pour empêcher les mineurs de tricher. Thomas Romer défend depuis plusieurs années cette solution avec l'Observatoire Open pour la protection des enfants sur Internet.
On ne peut que saluer cette initiative. Aujourd'hui, cocher une case pour dire j'ai plus de 18 ans, c'est pas suffisant. Il y a des dispositifs qui sont testés dans d'autres démarches où on est amené à vérifier la majorité des personnes qui se rendent sur les sites. Ces dispositifs méritent d'être étudiés comme n'importe quel autre.
Sauf que certains éditeurs de contenu pornographique sont contre. Carmena, réalisatrice de films et rédactrice en chef d'un site spécialisé, est scandalisée.
La solution qui a été proposée également, c'est de passer par France Connect, le site qu'on utilise pour gérer ses comptes de services publics ou pour payer ses impôts. Qui aurait envie de passer par France Connect pour consulter des sites pornographiques sur son temps de loisir? Ça me paraît un petit peu aberrant. Ça peut potentiellement m'obliger à fermer et le magazine, le Tag Parfait, et ma société de production.
Et si l'amendement est adopté à l'Assemblée, le CSA pourra saisir la justice et ordonner le blocage des sites pornographiques qui ne demandent aucune preuve d'âge aux visiteurs.
Et Marie Mercier, la sénatrice, un rapporteur de la proposition de loi, sera votre invité Jean-Jacques à 7h40 sur RMC.
Oui, tout à fait, sur ce sujet très intéressant qui fait réagir d'ailleurs de très nombreux auditeurs, hein, Mathieu Rouault qui arrive avec tous ses papiers, qui change de studio.
Ils arrivent.
Charlemagne, où est-il Charles? Alors Charles,
il est là,
on vous attend Charles.
Il court dans le couloir.
Bon d'accord, bon, il est au bout là-bas. Dans
il
les
est
corps.
En train de consulter différents sites.
Vous savez, dans le studio.
On bosse en profondeur ici.
Oui. Comment ?
Bien sûr, on bosse les sujets, Charles. Regardez tous les sites, comment ça fonctionne.
Pour savoir exactement comment ça fonctionne, pour avoir accès aux sites porno, Charles va tout nous raconter.
Oui,
tout à l'heure, évidemment.
Investigation, c'est mon mot d'ordre pour ces sujets, vous savez.
Marie Mercier sera là, la sénatrice, qui veut interdire l'accès des sites porno. Mais comment faire aux ados ? Mais alors, comment faire aux enfants ?
C'est pas
gagné. Je ne sais pas, parce que c'est pas gagné.
Bien,
nous allons parler d'autres sujets, il n'y a pas que celui-là. D'abord, je vous rappelle que je vous offre sur RMC et RMC Découverte, un an de course, 500 euros tous les mois pendant un an, ça fait 6000 euros si l'on calcule bien. Pour cela, vous répondez à la question que je vous pose. Que vit-on depuis... Ça vous fait rire ma question. Mes questions font rire. Remarquez, vous pouvez rire, ça,
bah oui,
c'est sûr.
Il faut.
Que vit-on depuis le 11 mai? Le déconfinement, un, ou deux, la désinvolture?
Ah
oui.
Faut pas répondre les deux à la fois.
Un peu des deux.
Oui. Vous avez un peu des deux, oui. Vous avez la bonne réponse. Alors envoyez un pour déconfinement et 2 pour Désinvolture par SMS au 7-32-16. Le gagnant ou la gagnante avec moi, le 12 juin, c'est demain, puisque nous sommes le 11.
Et puis demain, on vous dira qui sont les auteurs de ces questions.
Oui, on révélera. Nous vous dirons qui, oui, qui est.
Il y a une équipe de 50 personnes.
Qui rédige ces questions hein bon. Yann est à Nice. Bonjour Yann.
Bonjour Jean-Jacques.
Comment ça va ce matin, mon cher Yann?
Super, super, super. En plus, je vous ai au téléphone, ça fait chaud.
Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Vous êtes sur RMC. Il faut se dépêcher parce que peut-être que bien, oui. Je serai plus là bientôt. Hein. Bon, comment, Yann? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, ben là, vous êtes parti en vacances.
Oui, ça, je vais partir en vacances, mais peut-être que, pas en longue vacances, non, mais peut-être que je ne serai pas là à la rentrée, on verra bien. Yann, vous êtes à Nice, vous trouvez ça choquant? Qu'est-ce que vous trouvez choquant? Qu'on puisse enlever les noms de rue, d'écoles, déboulonner des statues au nom du racisme, de la lutte contre le racisme? Dites-moi.
Je trouve ça, enlever notre histoire et faire évoluer les mentalités. Ça, ils n'arrivent pas à faire comprendre aux gens, parce que tout le monde est raciste. Tout le monde.
Tout le monde, non.
Si, tout le monde a un point de racisme en eux.
Bah, vous êtes raciste, c'est alors, Yann? Vous êtes raciste? Non, mais vous êtes raciste?
Non, je ne suis pas raciste. Mais
bah alors, si vous dites que tout le monde est raciste.
Quand des fois, admettons, mon voisin, je ne suis pas content de lui, hein, je vais le taquiner sans être méchant. Des fois, on va pas s'en rendre compte, mais on va dire des mots peut-être qui peuvent être sous forme de raciste.
Alors qu'on ne le sait pas. Non, mais expliquez-moi, parce que là.
On peut dire t'es con, allez, viens.
Mais t'es con, ça veut pas dire. T'es con, ça veut pas. Mais, ça, bien, on peut dire t'es con à un jaune, un blanc, un noir, un maghrébin. On peut dire t'es con à n'importe qui.
Parce qu'on a la radio.
Oui.
Mais. On a tous des mots, on a tous dit des mots dans la vie. Sous forme de racisme.
Ah bon?
Que ce soit en racisme, en lien avec le racisme.
Mais c'est quoi? Mais moi, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir dit des mots.
On supprime l'histoire, oui. comme les livres, les bouquins, de qu'est-ce qui s'est passé de l'époque, pour. Parce que c'est raciste. Je trouve ça un peu.
Non, mais qu'on supprime. Alors là, je vous rejoins, Yann. Que dans les livres d'histoire, on supprime l'histoire, ça je suis, parce que l'histoire, non, parce que les faits, moi je suis très attaché aux faits, c'est sacré, les faits sont sacrés. Après il y a une lecture de l'histoire, après il y a une manière de célébrer certaines personnes qui peut-être ont eu des comportements racistes dans leur vie, c'est différent, mon cher Yann, c'est différent. Mais oui, lorsque vous dites tout le monde est raciste, moi je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord.
Si, c'est parce qu'en fait c'est une forme de racisme. Certains dans une forme de racisme, ils se disent racistes ou peut-être pas, ils se disent pas racistes, hein. Mais dans le fond, si, parce que vous en rendez pas compte.
Bon.
Il faut vraiment.
Si, on s'en rend compte quand même de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, mais on voit bien que le sujet fait débat. Et à Londres, le maire de la ville, Sadiq Khan, vient de lancer toute une réflexion sur le nom, justement, des rues, des places aussi, qui rendent hommage à des esclavagistes.
Voilà. On va en parler d'ailleurs avec.
En plus,
tout à l'heure avec.
Les monuments. Oui. Chose que je ne comprends pas. Un monument, c'est pour se rappeler. C'est comme un bouquin. C'est pour se rappeler et éviter et éduquer nos enfants à éviter ce que l'époque a fait.
C'est pour ça qu'il faut apprendre l'histoire, hein, quelle qu'elle soit.
C'est vrai.
Ben oui. Merci Yann, dans tous les cas. Merci vraiment.
Merci à vous.
Et merci d'être avec nous, mon cher Yann. Tout à l'heure, Nicolas Poincaré parlera de cela, Charlemagne aussi. Enfin, c'est l'un des gros sujets de la matinée et qui, sujet qui fait réagir de très nombreux auditeurs. Mathieu veille à tout ça, hein, Mathieu.
Bien sûr. Albert nous dit, et bientôt, il faudra détruire aussi les pyramides, tous les temples d'Égypte, parce que là aussi, c'était un pays colonisateur,
nous, on a volé
construit par des esclaves.
On a volé l'obélisque. Ben oui. Les Anglais ont pillé le Parthénon, etc. Quoi. Bon, allez, il est 6h13, vous êtes sur RMC. Est-ce que vous êtes riche? On va voir. C'est la question à laquelle tente de répondre pour la première fois l'Observatoire des inégalités en fixant un seuil de richesse. 3000. Alors, quel est le seuil de richesse fixé l'Observatoire des inégalités? Bon, c'est un observatoire comme un autre, hein, mais enfin bon. 3740 euros. Même. J'en ai assez de voir toutes ces... Je me demande à quoi ça sert tout ça. Mais enfin bon, allez. 307... 3, qu'est-ce que tu dis 300 3740 euros net par mois et par personne pour un célibataire. Voilà. C'est par personne pour un célibataire, ça
oui,
c'est sûr.
Pour une personne seule.
Pour une personne seule, oui. 3740 euros net. En dessous, on n'est pas riche. Et au-dessus, on est riche. Bien, selon les estimations de cet observatoire, en France, 8,2% de la population, 5 millions de Français vivent au-dessus de ce seuil. Pour un couple sans enfants, on est riche avec 5205 euros. Je dis bien un couple sans enfants. Et un couple avec deux enfants est riche avec 7287 euros par mois. Bien, parmi les 10% des Français les plus riches, une personne sur trois vit en région parisienne. Mais quand on demande au hasard, personne, mais alors personne jamais, ne se considère comme un riche. Nicolas Repère et Mao Becker-Granier ont interrogé les Parisiens sur la question.
Pour certains dans ce quartier du centre de Paris, on est riche à partir de...
10 000 euros, on commence à être un peu riche.
Retraité Marc ne se considère pas comme riche alors qu'il touche une pension de plus de 5 000 euros par mois.
J'ai une classe moyenne, tout à fait moyenne. 3 500 euros, ça veut rien dire.
Pour l'Observatoire des inégalités, on est riche à partir de 3 470 euros net d'impôts mensuels. Une surprise pour Marie qui travaille pour une multinationale.
Je n'avais pas du tout ce montant en tête. Ça me paraît pas être un montant au-delà duquel on est riche. Moi, je gagne bien ma vie, hein. J'ai pas de le dire. Hein. Maintenant, je me considère pas riche, non. Enfin, je suis à l'aise, hein, mais je suis pas riche. Bah, j'ai appris aujourd'hui que j'étais riche et je vous en remercie.
Un montant qui suffit pour vivre, estime Alexandre, qui travaille dans la finance.
À partir de 3 400 euros, je pense qu'on vit convenablement dans notre société. On peut avoir ce qu'on veut à partir de ce montant-là. On peut se permettre d'avoir des vacances, on peut se permettre d'acheter, on peut commencer à ne pas compter ses sous, en fait, si vous voulez.
Jusqu'à maintenant, aucun critère n'existait pour définir la richesse. Un manque bien pratique pour les plus aisés, estime Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités.
C'est aussi qu'on vit dans un certain milieu, on a certains codes, on a certains repères et on ne se rend plus compte. On est toujours le pauvre d'un autre, quoi. Et c'est très utile d'être le pauvre d'un autre, parce que quand vous voulez échapper à la solidarité, il n'y a rien de tel que se prétendre classe moyenne.
Louis Morin rappelle que la France compte 1 200 000 millionnaires, classant le pays parmi les 5 premiers dans le monde.
Il est 6h16. Comment donc l'Observatoire des inégalités, je savais même pas que ça existait, calcule le seuil de richesse quand t'as vu?
Alors, il y a plusieurs critères. Il y a trois critères. Le premier, on en a parlé, c'est le revenu médian. On a coupé la France en deux. On a regardé ceux qui gagnaient moins et ceux qui gagnaient au-dessus. Donc, de 3470 euros net après impôt chaque mois pour une personne seule. Le deuxième critère, c'est la richesse en patrimoine. Vous êtes considéré comme riche si vous avez un patrimoine de 490 000 euros. Et puis le troisième indicateur, ce sont les conditions de vie. Est considéré comme riche un Français qui possède une résidence secondaire, qui va au ski ou qui s'offre des vacances au soleil en hiver, qui voyage souvent, régulièrement en avion et qui dispose d'un logement d'au moins 60 mètres carrés pour une personne seule, même si ce dernier critère est un petit peu moins vrai en région parisienne.
En région parisienne, oui, bien sûr, bien sûr. Si on va au ski, on est riche, forcément.
Ça fait partie des critères, oui, exactement.
Bon. Le signe extérieur de richesse.
Oui, c'est ça.
Oui. Il est 6h, il faut dire que le ski coûte cher, mais enfin on peut aller au ski sans que ça soit trop cher non plus. Tout dépend de l'endroit où on va au ski, tout dépend comment, dans quelles conditions. Enfin, je trouve sous critère, enfin je sais pas, enfin bon, peu importe, allez. Vous réagissez si vous voulez, 6h17, il est 6h17 déjà. Nous allons faire une petite pause. Ensuite, nous allons parler des ours, puisque Alain Rennes est avec nous, directeur de l'association Pays de l'Ours. Que s'est-il passé? Bien, un ours a été tué par balle, mais oui, par balle, près de Guzenège, je crois, dans les Pyrénées. À tout de suite.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Alain Rennes est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'association Pays de l'Ours, association en faveur de la protection de l'ours. Un ours, un mâle, 4-5 ans. Quoi, 150-200 kilos, c'est cela, à la reine?
Oui, environ, oui. Ce sera précisé, je pense, par autopsie, mais c'est l'estimation visuelle qui a été faite, oui.
Oui, cet ours sera autopsie aujourd'hui à Toulouse. Ah non, il a été autopsié hier à Toulouse, mais on aura les résultats aujourd'hui. Il a été tué par balle, près de la station de ski de Guzet, en Ariège. Il n'a pas été identifié parce qu'il n'était pas équipé de collier de géolocalisation. Pourquoi ?
Parce qu'il y a très peu d'ours qui sont équipés de systèmes de localisation. En fait, il y en a 3 sur 52 qu'on a compté en 2019 dans les Pyrénées. Donc, vous voyez, il y avait assez peu de chances de tomber sur un de ceux-là.
Mais bien sûr. Tué par balle, dans une zone escarpée, évidemment, on ne sait pas qui. Enquête ouverte.
Oui, bien sûr. Hein. Pour l'instant, la personne qui a fait ça ne s'en est pas vantée. Et bien sûr, il va y avoir une enquête qui a été d'ores et déjà annoncée par la ministre de l'écologie avec dépôt de plainte. Et bien entendu, les associations vont également déposer plainte pour abonder effectivement au niveau de cette enquête.
C'est le deuxième ours de l'année à être retrouvé mort. Vous demandez aussi à la ministre de le remplacer.
Oui, absolument, parce que une enquête, ça suffit pas. D'abord, il n'est pas du tout certain qu'on retrouve l'auteur des faits et qu'il puisse être condamné. Et puis, d'autre part, même si c'était le cas, ça ne résoudrait pas le problème de l'ours et ça changerait rien pour l'ours sur le terrain. Or, le problème que l'on a, c'est que la petite population pyrénéenne, je rappelle qu'on a la plus petite population d'ours d'Europe, de toute l'Europe, elle est insuffisante pour se maintenir à long terme et qu'il y a de toute façon une nécessité de restaurer cette population. Alors, le gouvernement avait dit que dans l'immédiat, il n'avait pas l'intention de lâcher de nouveaux ours puisqu'il en avait lâché deux en 2018, mais il a dit en même temps que tout ours, et il a même écrit, que tout ours qui mourrait de cause humaine serait immédiatement remplacé. Alors, je ne comprends même pas pourquoi la ministre de l'écologie n'a pas annoncé en même temps que la mort de l'animal, en même temps que l'enquête, pour être tout à fait clair que cet ours serait remplacé conformément à leurs engagements.
Conformément aux engagements, une cinquantaine d'ours dans les Pyrénées qui vivent sans souci. Enfin, il y a quelques problèmes avec le pastoralisme. J'ai vu qu'une rallonge de 500 000 euros au fonds alloué à la cohabitation entre pastoralisme et ours allait être avait été annoncée par le gouvernement. Hein, c'est cela, Alain Rennes.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des sommes importantes hein, qui sont accordées. C'est important de concilier les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. Donc, il y a déjà des moyens importants qui sont accordés. Il y a eu une rallonge cette année. On n'est pas toujours d'accord sur les moyens, sur les mesures qui sont mises en œuvre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'autorise personne, même si on n'est pas d'accord, à supprimer un ours et ôter le droit d'une espèce à vivre dans un territoire qui ne lui appartient pas.
Oui, infraction passée de 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Destruction non autorisée d'une espèce protégée. Bien, Alain Rennes, j'espère que vous allez être écouté et que l'ours va être remplacé. Vous appelez 3216rmc.fr. Merci beaucoup Alain Rennes. Hein. Merci. Je sens déjà qu'on va dire, ah bah voilà le bobo parisien, enfin bobo, c'est le Cévenol parisien quoi. Je préfère. Hein. Le Cévenol parisien qui nous dit mais... il faut arriver à vivre ensemble, là encore, hein, que le pastoralisme et l'ours puissent vivre ensemble dans les montagnes des Pyrénées, ça serait pas mal. Bon, on y arrive, tant bien que mal, on y arrive. Il est quelle heure? Il est 6h26. Allez, 6h26, tiens, on a des chiffres aussi, avant de donner la parole à Charles Magnier, on a des chiffres aussi ce matin sur les attaques de loups.
Oui, le nombre d'attaques a été stable entre 2018 et 2019, selon les chiffres officiels, les derniers chiffres qui viennent d'être communiqués. Au moins 90 attaques ont donné lieu à des tirs sur des loups. 90, c'est le quota de loups pouvant être abattus en France. Mmh. On estime qu'il y a 580 loups gris, des loups gris adultes en France. Ils se reproduisent de plus en plus lentement.
Oui, ça c'est intéressant. Ils se reproduisent de plus en plus lentement.
Et 500, c'est le seuil de loups qui a été fixé pour que l'espèce ne disparaisse pas. Le loup qui avait été éradiqué par l'homme dans les années 30 en France pour revenir naturellement par l'Italie au début des années 90.
Le 90. Charles Magnien qui est un loup, forme de loup. Oui, un autre loup, une autre espèce. Tous les matins, trois histoires et trois images. Un peu partout dans le monde, les manifestants du mouvement Black Lives Matter s'en prennent à des statues.
Oui, ça a commencé le week-end dernier à Bristol, en Angleterre, où la statue d'Edward Colston, un marchand d'esclaves du XVIIe siècle, a été déboulonnée et jetée à l'eau lors d'une manifestation. Deux jours plus tard, à Anvers, en Belgique, c'est la statue de l'ancien roi des Belges, Léopold II, figure du passé colonial de la Belgique, qui a été vandalisée, taguée, avant d'être retirée par les autorités. autorités. Et puis aux États-Unis, depuis plusieurs jours, les militants traquent tous les symboles confédérés, tout ce qui a trait au passé esclavagiste des États-Unis, et s'en prennent désormais au statut de Christophe Colomb. Le navigateur est considéré par ces militants comme une des figures du génocide des Amérindiens. On a ainsi vu une statue de Christophe Colomb décapitée à Boston, une autre déboulonnée, brûlée, puis jetée à l'eau en Virginie. Et cette nuit, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a appelé au retrait de toutes les statues de confédérés du Capitole.
Une histoire en France. L'escroc au kiwi condamné à une lourde amende.
Il n'est pas allé de main morte. En 2019, ce producteur ardéchois de kiwi a écoulé près de 500 tonnes de kiwis bio italiens sur le marché français, des kiwis venus d'Italie, mais qu'il présentait comme des kiwis français et donc vendus beaucoup plus cher. Une arnaque à l'étiquette lourdement sanctionnée. 70 000 euros d'amende pour ce producteur. Tous les syndicats agricoles s'étaient portés partie civile, car ce genre de pratique fait beaucoup de mal aux producteurs français. Sur les étals, aujourd'hui, on estime qu'un kiwi français sur 10 est en réalité italien.
À New York, les autorités sanitaires recommandent le port du masque pendant les rapports sexuels.
Oui, c'est la chaîne CNN qui dévoile note du très sérieux département de la santé de la ville de New York. Le document rappelle que le virus se propage via la salive et la respiration. Il est donc conseillé de porter un masque pendant l'acte, mais aussi, je cite, d'être créatif en matière de position afin de mêler au mieux plaisir et gestes barrières. Et évidemment, disent les autorités, être encore plus précautionneux si votre partenaire a plus de 65 ans.
Et Mathieu. Pourquoi ça Expliquez-moi pourquoi.
Je vous imprimerai le document complet si vous voulez.
Non, mais vous pouvez me dire pourquoi.
Pas moi.
Bon, on termine en musique.
On termine en musique avec une bonne nouvelle pour vous, pour moi, Jean-Jacques, et tous les fans de Céline Dion. Céline Dion avait interrompu sa tournée mondiale en raison de la pandémie. Elle devait venir à Paris au mois de mars dernier. Eh bien, elle a tout reporté au mois de mars 2021. Elle honorera également son rendez-vous avec les Vieilles Charrues le 15 juillet 2021. Et tous les billets que vous aviez achetés pour ses concerts de 2020 seront valides pour les nouveaux shows en 2021.
Bien, la machine à café 3216, la touche 5. Quentin Vinet.
Et le mot matin par SMS 732-16.
Et Mathieu Rouault.
À suivre, il avait 46 ans, il a travaillé pendant tout le confinement, un éboueur a mis fin à ses jours après s'être fait licencier pour avoir bu deux bières pendant son service.
Offerte par deux clients.
Le maire de la commune du Calvados où ça s'est passé, dans laquelle cet éboueur travaillait, Jacques Landemaine, est avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est 6h31, Anne-Sophie Balbier est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. La circulation du virus ralentit, la crise économique s'accélère. 800 000 emplois pourraient disparaître dans les prochains mois. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Les grandes enseignes de vêtements demandent un allègement du protocole sanitaire. Une nouvelle date à l'agenda d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'adressera aux Français dimanche à 20h. Objectif, esquisser les pistes de l'après-Covid. Et puis les syndicats de policiers reçus au ministère de l'Intérieur aujourd'hui et demain. Les décisions et les propos de Christophe Castaner ne passent pas. RMC 6h31. 800 000 emplois supprimés d'ici la fin de l'année en France. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui table sur ce chiffre. Ça montre à quel point le choc du coronavirus est brutal et les grandes enseignes de l'habillement auront sans doute du mal à passer entre les gouttes. Zara est tombée dans le rouge pour la première fois depuis 2001. Difficulté aussi pour la marque Etam qui réclame un assouplissement rapide des restrictions sanitaires. À Paris, Garance Munoz, Florian Chevalet.
Madame, je vous laisse me suivre, la cabine a été désinfectée, ça sera juste ici.
Depuis un mois, pour Marianne, la vendeuse, avec les cabines d'essayage, c'est le même rituel.
Après chaque cliente, on recommence, on doit désinfecter.
Et ce n'est pas la seule contrainte pour toutes les vendeuses. C'est port du masque obligatoire, c'est sans doute ce qui est le plus compliqué pour Isabelle Guillotot, responsable de la boutique.
Vous savez, c'est comme en mai 68, on jetait nos soutiens-gorge, là j'aimerais jeter mon masque.
Le mois dernier, ce magasin de lingerie a réalisé 35% de chiffre d'affaires en moins comparé à l'année dernière. Difficile de concilier vente, conseils et contraintes sanitaires.
Nous, on est très tactile, on a ce service de mesurer les clientes, d'être aux petits soins pour elles. Et aujourd'hui, on a cette barrière.
Les grandes enseignes de l'habillement demandent aujourd'hui un retour à un fonctionnement normal, de quoi limiter la casse, selon Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
Maintenant que l'épidémie est un peu moins présente, est-ce qu'on peut desserrer les taux? On va avoir des destructions de plusieurs milliers d'emplois et la fermeture avec de plusieurs centaines de points de vente. Ce qui signifie très concrètement des territoires où demain, il n'y aura plus de magasins et de la dévitalisation pour ces territoires-là.
Selon lui, dans le secteur de l'habillement, 15 000 salariés seraient aujourd'hui menacés.
La bataille pour l'emploi, les plans d'aide pour relancer les secteurs qui prennent l'eau, tout ça devrait être au menu de l'allocution d'Emmanuel Macron dimanche à 20h. Jérémy Trottin, le président, va tenter de justifier et d'expliquer l'action post-Covid du gouvernement.
Oui, et il faut dire que les sujets sur lesquels le président devrait s'exprimer sont nombreux. L'actualité tout d'abord, et notamment la mort de George Floyd et les manifestations contre les violences policières en France, sujet sur lequel le chef de l'État est resté discret, mais surtout la nouvelle phase du déconfinement, très attendue par les Français et les entreprises. Une occasion pour redonner du sens et des perspectives à l'action du gouvernement, insiste l'Élysée. Le moment également d'expliquer aux Français qu'après la crise sanitaire s'ouvre désormais une crise économique. L'initiative franco-allemande pour relancer l'Europe sera également évoquée. Une prise de parole attendue par la majorité, très agitée actuellement dans la perspective d'un prochain remaniement. Mais les proches du président tentent de calmer le jeu. Cette intervention n'est qu'un point d'étape avant un discours très politique en juillet.
Emmanuel Macron qui réunira demain le conseil scientifique. Pas de reprise de l'épidémie pour le moment. La circulation du virus ralentit, les indicateurs sont positifs, mais il y a toujours des morts. 23 de plus en 24 heures. Il y a aussi des territoires où les cas de contamination sont en forte hausse. Exemple, la Meurthe-et-Moselle. Thomas Chupin.
C'est un peu en colère que le préfet du département a sonné l'alerte hier. Les comportements se relâchent, dit-il, et ça se voit dans les chiffres. Depuis presque une semaine, la Meurthe-et-Moselle a comptabilisé une vingtaine de nouveaux cas Covid chaque jour, quand c'était une dizaine quotidiennement depuis la fin du confinement. Résultat, le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, est passé au-dessus du taux de vigilance à 21 cas pour 100 000 habitants. La moyenne nationale est seulement à 4. Alors comment expliquer ces chiffres? Le préfet est très clair, il y a du relâchement. Avec l'exemple du village de Saint-Try, 1 millier d'habitants, 5 cas de Covid, dont 2 enfants. L'enquête de la L'Agence régionale de santé a prouvé qu'il y a eu des fêtes de voisins dégoûtés dans le village ces derniers jours. Dans le département, 8 EHPAD sont touchés. Puis après la détection de 3 cas, la cité judiciaire de Nancy a dû réduire ses activités. Un constat qui s'explique aussi parce que le département a mis en place une politique de tests massifs qui fait forcément ressortir plus de cas positifs.
Écœurement, abandon, fébrilité au sommet de l'État, réaction des syndicats de police après les propos de Christophe Castaner sur la tolérance zéro contre le racisme, sur la fin de la méthode d'étranglement. Ils ont rendez-vous aujourd'hui et demain au ministère de l'Intérieur. L'ambiance promet d'être tendue. Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGPFO, est particulièrement remonté.
Les policiers ont vraiment le sentiment d'avoir été lâchés par leur ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a cédé à la vindicte d'une minorité populaire et aujourd'hui nous retire une technique d'intervention, une technique d'interpellation qui s'avère être complètement nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas faire sans. Il veut, a priori, nous annoncer la généralisation du pistolet à impulsion électrique. On veut, nous, d'abord qu'il soit testé. Si jamais Christophe Castaner ne nous entend pas cet après-midi, ne nous écoute pas cet après-midi, bien évidemment, on va durcir le ton. J'appellerai ni plus ni moins à ne plus faire d'interpellation.
Elle n'avait pas encore parlé de l'affaire George Floyd. C'est fait. La nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, a publié une vidéo sur son compte Facebook hier. Elle évoque aussi le cas Adama Traoré.
Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis, lui. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage.
Dans la foulée des manifestations antiracistes qui ont lieu en ce moment aux États-Unis, on apprend ce matin qu'une statue de Christophe Colomb a été décapitée à Boston, une autre vandalisée à Miami et une troisième jetée dans un lac en Virginie. De son côté, la Fédération américaine de foot a mis fin à la règle qui interdisait aux joueurs des équipes nationales de s'agenouiller pendant l'hymne. La mesure avait été instaurée en 2017, mais elle est retirée pour ne pas porter atteinte au mouvement. Et puis un derby, Betis-Séville, FCC pour la reprise de la Liga ce soir. Le championnat d'Espagne est le troisième à reprendre après l'Allemagne et le Portugal. Les courses, Mathieu, c'est à Compiègne.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 6, Tabula Rasa, outsider numéro 2, Chasselet, le 6 et le 2.
Merci Anne-Sophie. Balbir reviendra tout à l'heure, c'est promis, à 7h30. Il est 6h37, Quentin Vinet est là, Mathieu Rouault est là, absolument. Nous sommes tous là, vous êtes là, le 32-16, notre notre lien. Je vois déjà pas mal de messages. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Les messages tombent. Quels sont les sujets qui se dégagent, Mathieu, ce matin?
D'abord, ces statues déboulonnées, ces noms de rues ou de lycées qu'on voudrait effacer au nom de la lutte antiraciste. Tiens, par exemple, ce message de Maurice, si vous voulez. Dans ces cas-là, il faudrait aussi supprimer, par exemple, tout ce qu'on doit à Napoléon Ier, qui a été colon. Oui. La numérotation père et impère.
Et sanguinaire.
Sanguinaire. La colonne de la place Vendôme, les ponts Iéna, Austerlitz, le pont des Arts, le jardin des Plantes, une partie de la rue de Rivoli, etc., etc. Tout ça, il faudrait l'enlever, nous dit Maurice, au nom de la lutte antiraciste et de la lutte contre l'esclavagisme.
Bien. Benjamin veut nous parler de cette mesure tout à l'heure. Écoutez bien, à 7h40, le Sénat veut bloquer l'accès des sites porno aux mineurs. Mais comment faire? Marie Mercier, qui porte cette loi au Sénat, est sénatrice de Saône-et-Loire. Marie Mercier sera en direct avec nous. Benjamin est à Bordeaux. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Jacques et bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la radio ou à la télé le matin? Bah, vous êtes pâtissier.
À la radio, mais non.
Mais oui.
Depuis qu'ils prennent l'antenne à 4h24, là, je les écoute, les fous.
Ils sont formidables, les fous.
On est des fous.
Benjamin, ouais. Vous aimez. Bon, ben tant mieux, vous êtes fidèle.
Moi, j'aime quand on n'est pas d'accord avec moi, donc j'aime quand les gens ne sont pas d'accord, j'aime quand ils sont d'accord, j'aime le débat, donc c'est formidable.
Vous n'êtes pas le seul. Benjamin, oui. À propos de débat, vous vouliez parler de cette idée de bloquer l'accès.
Je trouve quand même surprenant, c'est-à-dire, bon, les sites porno, bien sûr, il faut éviter que les mineurs aillent dessus, ça c'est une évidence maintenant, de dire qu'il faut passer par un site institutionnel pour aller sur un site porno, alors qu'on n'est pas capable de mettre en place le vote à distance par les sites institutionnels. Je trouve quand même ça très surprenant. C'est-à-dire que là, ils essayent de faire quelque chose qui, techniquement, ne va pas être possible, parce que si ce n'est pas possible pour qu'on vote en passant par le site des impôts ou par le site de la Sécu, je ne vois pas comment ça va être possible pour aller sur un site de pornographie.
Oui.
Maintenant, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien, il faut que ça soit du concret, c'est pas le tout d'avoir des idées.
Vous avez entièrement raison, mon cher Benjamin, et ce sont les questions que je vais poser à Marie Mercier tout à l'heure, à 8h20, écoutez bien.
D'autre part, juste un petit truc sur l'histoire, quoi. L'histoire, faut pas la regarder avec le prisme des yeux d'aujourd'hui, c'est une folie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder l'histoire avec les valeurs d'aujourd'hui. L'histoire, elle appartient à l'histoire, il faut la juger à la valeur de l'histoire, justement, et non pas la valeur d'aujourd'hui.
Exactement, mais ça, je suis assez d'accord avec vous, Benjamin. Merci,
bonne
on est
journée.
D'accord, vous voyez.
Et allez chez vos artisans, ils bossent, ils sont là la nuit et ils sont près de chez vous, donc ne les oubliez pas. Les artisans, les restaurants, allez-y. Bah.
Merci, Benjamin. Qui consulte des sites porno en France, Quentin Vinet?
J'ai recherché les chiffres. Ce matin, il y a 6 Français sur 10 qui ont déjà vu du porno dans leur vie, selon des chiffres donnés par le magazine GQ. Des jeunes, mais pas seulement. Hein. Un quart des Français sont des consommateurs réguliers. 75% sont des hommes. Ils restent en général entre 10 et 20 minutes sur les sites. Certains, ils vont même au boulot. Hein, au travail, ils vont sur des sites pornographiques au travail, 20%. La France, c'est le 6e pays consommateur de porno dans le monde. En moyenne, c'est à 8 ou 9 ans qu'un enfant est confronté à la pornographie pour la première fois dans sa vie. Alors comment? Un spécialiste donne un exemple. Les images apparaissent souvent de manière involontaire quand un enfant va regarder un dessin animé en streaming, par exemple sur Internet.
Bien, il est 6h41, on va faire un peu de pub. Ensuite, nous partons pour le Calvados, Fresnes, Camille, 1000 habitants. Le maire avec nous, dans sa commune, un éboueur licencié pour avoir bu de bière pendant son service s'est suicidé. À tout de suite.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Il est 6h45. Jacques Landemaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire du Fresnes Camille. C'est une commune de 1000 habitants, hein?
Quelques unités près.
Bon, je rappelle les faits. Un homme de 46 ans s'est suicidé dans le garage de ses parents. C'était vendredi dernier. Il avait reçu sa lettre de licenciement la veille. Il lui a été reproché. Il était boueur, cet homme de 46 ans. Il a travaillé pendant le confinement en risquant sa santé. Il lui a été reproché par son entreprise d'avoir consommé 2 bières pendant son temps de travail avec un collègue. C'est un riverain qui avait offert ces 2 bières pour les remercier justement d'avoir travaillé pendant le confinement en risquant leur santé. Taux d'alcoolémie, 0,19 grammes par litre de sang. Ce n'est rien. C'est rien du tout. C'est en dessous de tous les seuils. La direction de l'entreprise a eu connaissance des faits, a confronté les salariés qui évidemment n'ont pas nié, ils ont dit la vérité. Parce qu'ils n'ont rien fait de mal, ils ont tous deux été renvoyés le lendemain, cet homme de 46 ans, qui était dans ce métier depuis 26 ans, n'ayant pas supporté son licenciement s'est suicidé. Où sont les héros du quotidien dont on parlait, qu'on applaudissait, où sont les messages qu'on a mis partout sur nos poubelles? L'entreprise qui a une partie de son siège sur votre commune, d'abord vous ne connaissez pas ce salarié, je crois, hein?
Non, pas du tout, non. On les croisait, mais sans savoir, moi, je peux pas mettre une tête, un nom sur une tête que j'ai vue. Ils étaient tous les mardis sur notre commune, parce que le passage soit fait le mardi. Je les connais pour les voir comme ça, les croiser dans la rue, simplement. Le matin tôt, ils sont trois, il y a un chauffeur et deux reapers, voilà, c'est tout. Mais je ne le connaissais pas particulièrement.
Oui, ce sont des habitants de votre commune qui ont offert les bières.
Ah, écoutez, là, je suis vraiment élevé. Bon. C'est ce que j'ai appris par les médias, quoi. Moi, je l'ai pas.
Je vous sens consterné, Jacques Lendemain. Je vous sens consterné par cette histoire, comme je le suis d'ailleurs.
Oui, complètement, parce que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, pendant le confinement, c'est des gars qui ont bossé, ils passaient une semaine sur deux, parce que ça avait été un peu réduit, mais oui. Ils étaient là, ils étaient au travail, et puis ce qui me consterne le plus, bon, effectivement, c'est cet effet, mais c'est le fait de devoir en arriver à ce point pour un quelque employé que ce soit, qu'il y a un tel mal-être au travail que les gens finissent par se suicider. Et ça, ça m'insupporte, pour pas très français tout ça, mais ça m'insupporte complètement parce que il y a toujours moyen de trouver des solutions à tout problème. Il y avait eu des soucis il y a 3 ans en arrière où cette société a eu des gros problèmes et il y a eu un mouvement social qui a duré pendant plus d'un mois là, sur notre commune où il y a eu des pneus, des palettes de brûlés. Moi, je les rencontrais régulièrement, ces gens-là, j'allais les voir, j'aurais payé le café, ils m'ont expliqué leurs problèmes et puis il n'y a pas eu de solution de trouver nécessairement, mais devoir se suicider parce que on est au bout du rouleau, parce que les patrons, pour d'autres mots, les patrons les harcèlent, je trouve ça tout à fait insupportable.
Oui. La société s'appelle COVID. Je la donne. Les relations sont compliquées, vous me dites.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, c'est pas un scoop. Hein. C'est il y a 3 ans, en 2017, le conflit a duré un mois ou peut-être même plus dans la commune. Bon, c'est visiblement compliqué. Hein. Moi, je connais un peu la société parce qu'ils sont implantés sur la commune. Ils louent un local sur la commune pour entreposer leur matériel. C'est-à-dire, ils ont 7 camions dans la commune. Et même nous avons des relations un peu compliquées avec eux parce que ils ont un dépôt ici, mais il n'y a pas de station de lavage, donc les camions doivent être normalement nettoyés tous les jours. Bah, c'est ce qui se fait pas parce que l'autre dépôt se trouve à 20 km et donc les gens ne vont pas, les chauffeurs ne vont pas nettoyer leurs clients tous les jours. Donc les camions restent sur la commune à 200-300 mètres des habitations avec des odeurs pestilentielles. Donc c'est pas possible. Quoi. Oui. Bon, rien que ça, c'est un problème si vous voulez.
Ben oui, donc oui, et j'imagine la colère des habitants qui habitent tout près de ces camions.
Régulièrement.
Bon, du hangar où les camions sont stockés, j'imagine.
Oui, voilà, exactement.
Mais Jacques Lendemain, il y a une forte émotion dans la commune, là aussi,
ben, écoutez, moi, j'ai rencontré, j'avais une commission finance hier soir, et effectivement, les gens sont un peu, les conseillers qui étaient avec moi, me disent c'est juste insupportable, quoi, c'est pas possible. J'ai eu quelques autres échos où là, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ce qui se passait, parce qu'ils ont vu ça dans la presse, ils en ont entendu parler. Oui. Et pour eux, il y en a quelques-uns qui ont fait un amalgame entre le maire, entre l'employé qui s'est suicidé, parce que les gens pensaient que c'était quelqu'un qui était un employé de la commune. Et il y a une personne qui a dit, mais comment vous pouvez laisser faire ça? Et bon, il a fallu recadrer un petit peu, et là, on va faire une communication en disant que ce n'est pas un employé communal, que c'est, voilà. Mais effectivement, les gens sont tout à fait concernés en disant, mais c'est juste pas possible pour 2 bières, les cartes d'alcool est mis à 0,19. Mais bon. La société est ainsi faite, et puis, c'est juste déplorable, et moi, je vais me rapprocher de mon collègue de Giberville, parce que l'autre site, c'est Giberville, pour voir si, effectivement, on peut, faire quelque chose, qu'on rencontrait, parce que les dirigeants, malheureusement, on a eu l'occasion déjà de les rencontrer. Moi, je les ai rencontrés parce que, pour les problèmes de circulation dans la commune, pour les problèmes d'odeur, pour les problèmes de ça. Donc, à chaque fois, le problème va être résolu, sauf que faut s'y reprendre à 10 fois. Mais bon, c'est un peu compliqué, quelquefois.
Merci à vous, Jacques Lendemain. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, Jacques. Il est 6h51. Vous êtes sur RMC. Ça me... Ça m'irrite, irrite, c'est pas le mot, hein, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ils ont bu deux bières offertes par un riverain parce qu'ils ont bien fait leur boulot pendant le confinement et voilà qu'ils sont licenciés. Ça fera, franchement, quel gâchis, oui. Quel gâchis. Alors, Mathieu.
On va parler d'un sacré désagrément pour certains. La buée sur les lunettes à cause du masque. Eh bien, figurez-vous qu'Anthony Morel a des solutions pour vous. C'est déjà demain, dans un instant, sur RMC.
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 C'est déjà demain.
Il est là, Anthony Morel avec nous. Bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous avez quelques pistes pour améliorer les masques de protection? Parce que c'est vrai que d'abord on a chaud sous ces masques, on respire mal. Ouais. Parmi les désagréments que beaucoup rencontrent, la buée sur les lunettes, ça c'est vrai aussi.
Que Quentin et Mathieu vont pouvoir contredire sur ce point.
C'est infernal. Ouais. Des solutions sont en train d'arriver, dites-moi.
Ah, heureusement, il est temps, mais effectivement, il y a plein de choses qui sont en train. Les ingénieurs sont sur le pied de guerre là, depuis l'arrivée de ces masques. Effectivement, il y a plein de technos qui sont en train d'arriver. Alors notamment des masques anti-buée, donc des masques qui vont intégrer par exemple des systèmes de ventilation, c'est-à-dire qu'on va en fait intégrer un flux d'air qui va empêcher la buée de se déposer à la surface des lunettes. Ça c'est en train d'arriver sur le marché. En attendant, on a des solutions un petit peu plus artisanales. Par exemple, il y a tout un business qui s'est mis en place autour des sprays anti-buée. Alors on trouve ça sur internet, c'est des petits flacons, ça coûte 5€, donc un petit pchit-pchit, et ça va créer une fine couche à la surface des lunettes qui va empêcher la buée d'adhérer au verre. Donc bon, pourquoi pas. Des solutions très artisanales aussi. Il y a une petite PME basée dans l'Oise qui a mis au point le pince-mi. Alors le pince-mi, c'est une petite pince
qu'on
applique en haut du masque, au niveau du nez, et en fait ça va créer une barrière étanche qui va empêcher la buée d'arriver jusqu'aux lunettes. Donc là voilà, vous avez des solutions très high-tech, d'autres qui sont beaucoup plus artisanales, mais ça permet en tout cas d'éviter d'être embêté par cette buée, quoi.
Alors les masques pourraient aussi devenir transparent, c'est quand même plus pratique pour communiquer.
Oui, parce que niveau convivialité, c'est vrai que les masques, on a quand même vu mieux. Donc déjà, d'avoir le masque
et
transparent.
Il y a les sourds et muets aussi.
Exactement.
Pour
c'est ce que j'allais te dire. Pour les sourds et muets, c'est une vraie solution. Et alors, il y a un autre truc auquel on n'avait pas pensé. Moi, j'y pense égoïstement pour le côté tech, mais c'est que la reconnaissance faciale des smartphones ne fonctionne plus avec les masques.
Ça, c'est vrai.
Et ouais, et c'est pénible. Et
on est obligé de taper son code en permanence.
On se croirait en 2015, Jean-Jacques, c'est pas possible.
On tape
son code. Mais oui, l'enfer. Bah attendez.
Moi, je tape mon code tous les jours.
Oh oui, si t'as envie de perdre du temps, d'accord. Mais en gros, là, l'intérêt de ces masques transparents, et bien sûr, ça, il y a même des startups qui proposent des masques avec votre visage imprimé dessus pour que la reconnaissance faciale fonctionne. Donc, vous leur envoyez des selfies et ils vous envoient un masque imprimé.
C'est pire que tout, ça, pourquoi pas.
Ouais, je trouve ça, c'est pas génial. Mais j'avoue, c'est une solution comme une autre.
Et au restaurant, comment fait-on?
Alors, au restaurant,
comment manger et boire sans enlever son masque?
Eh bien, on va pouvoir.
Vous aviez une solution avec une paille, c'est
absolument. Mais affreux, c'est un ingénieur israélien qui a mis ça au point. C'est un masque qui s'ouvre et qui se ferme lorsqu'on approche une fourchette de sa bouche. En gros, c'est ça le principe.
Donc, tout qui tombe à côté là.
Ah bah, vous mangez, avec une glace ou un sandwich en sauce, ça doit être, j'imagine, le spectacle, ça doit être assez génial. Donc, c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. Mais enfin, bon, je voulais vous le montrer quand même pour vous dire jusqu'où vont les ingénieurs. Pour aujourd'hui, ce sera tout, mais j'en ai plein d'autres. Vous inquiétez pas.
Plein d'autres, oui, non, mais ça, je suis pas inquiet. Il est 6h58. Merci, Anthony. Bruno.
Oui.
Bah, Cherbourg, dans le Cotentin.
Bonjour, Monsieur Bourdin, et à toute l'équipe.
Merci, Bruno. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin, Bruno.
Alors, je regarde fidèlement la télé et je vous suis depuis, mais alors, des années et des années.
La 24, tous les matins, hein, Bruno?
Ah oui, et je suis très fidèle.
Ah bah merci, Bruno, ça me fait vraiment plaisir.
J'adore votre en parler.
Eh ben merci, Bruno, profitez-en bien, parce que ça n'a peut-être pas duré, mais profitez-en bien. Bon, Bruno.
De temps en temps, il faut les piquer un peu fort. Hein.
Oui, non, mais ça, vous avez raison. Mon cher Bruno, dites-moi. Vous avez gagné la machine à café, les capsules qui vont avec, hein?
Oh, c'est super. Quand je boirai un café, je penserai à vous.
Ah ben c'est gentil, Bruno. Merci beaucoup. Et moi, je penserai à vous en l'envoyant. Enfin, c'est pas moi qui vais l'envoyer, mais enfin, je pense à vous. Vous avez gagné, vous avez eu raison. Et je pense à vous parce que vous êtes à la télé. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux, de plus en plus nombreux à être devant votre poste. La 24, c'est la chaîne qu'il faut regarder le matin. Merci, Bruno. Hein.
Par contre, ça me fera de la peine si vous quittez l'antenne.
Eh oui, mais c'est la vie, c'est comme ça.
Je peux vous dire qu'après, ça dépend qui prendra votre place, mais je crois pas que je serai aussi fidèle. Hein.
Bien, eh ben merci, Bruno, 6h50. 9. Vous êtes sur RMC, merci. 6h59, nous allons voir avec Mathieu dans un instant ce que nous allons faire.